Soldats du 5e, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Me voilà. Adieu, terre des braves, je te salue. Adieu, France. Adieu.
Il est resté immobile depuis ce moment jusqu'à 5h49 minutes du soir, qu'il a rendu son dernier soupir.
C'est dans les temps difficiles que les grands hommes déploient toute l'énergie de leur caractère et deviennent un objet d'admiration pour la postérité.
Il a été le plus grand ennemi de l'Angleterre, et aussi le mien. Mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme, nous ne serions éprouvés que recueillement et regret.
Le 5 mai 1821 à 17h49, Napoléon meurt à l'âge de 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène. Chateaubriand dira qu'il venait de rendre à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Napoléon, prisonnier des Anglais, s'est éteint après 6 ans de déportation sur un rocher perdu au milieu de l'océan. 6 longues années, pendant lesquelles il n'aura de cesse de façonner son histoire et de construire sa légende pour la postérité.
L'infortune seule manquait à ma renommée. J'ai porté la couronne impériale de la France, la couronne de fer de l'Italie. Et maintenant, l'Angleterre m'en a donné une autre plus grande encore et plus glorieuse. Celle portée par le sauveur du monde. Une couronne d'épines.
Napoléon, le crépuscule de l'aigle. Une série réalisée par Franck Istas et Pierre de Valais. Premier épisode, l'invasion d'un seul homme.
Français, dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos vœux. Vous accusiez mon lent sommeil. Vous me reprochiez de sacrifier à mon repos les grands intérêts de la patrie. J'ai traversé les mers au milieu des périls de toute espèce. J'arrive parmi vous reprendre mes droits, qui sont les vôtres.
Ces mots, ce sont ceux de Napoléon, prononcés lors de son débarquement sur les côtes françaises près de Cannes en mars 1815. Il revient de son exil sur l'île d'Elbe. Pour comprendre ce premier exil, il faut retourner 1 an en arrière. La France, en 1814, est seule contre toute l'Europe. Après le désastre de la campagne de Russie, après la défaite de Leipzig, Napoléon doit se battre à 1 contre 5 pour tenter d'empêcher l'invasion de la France. Malgré son génie militaire, l'empereur des Français n'arrive pas à arrêter l'avancée des alliés européens sur Paris. Napoléon est déchu par le Sénat et contraint d'abdiquer. Louis XVIII monte sur le trône, c'est la première restauration, le retour de la monarchie 21 ans après l'exécution de Louis XVI et les débuts de la Révolution. Napoléon doit alors quitter son pays. On lui donne la souveraineté de l'île d'Elbe, sur laquelle on l'exile. Mais moins d'un an plus tard, il s'échappe avec 900 hommes et s'embarque à destination de la France. Il y pose le pied à Golfe-Juan le 1er mars 1815. Personne ne s'attend à son retour. Napoléon veut à présent remonter sur Paris et reprendre son trône. C'est le début d'une des plus incroyables périodes de l'histoire, les 100 jours.
Napoléon ne renonce jamais, il ne renonce jamais à rien.
Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon.
Probablement, le retour en France est d'abord quelque chose qui tient à l'ambition personnelle, c'est-à-dire qu'il se voit mal terminer ses jours, même dans une île aussi agréable que l'île d'Elbe, mais encore moins, évidemment, dans les îles où on veut l'envoyer. Donc, je pense que son premier mouvement, c'est un mouvement d'ambition personnelle. Et puis, il est conforté dans sa décision par toutes les informations qu'on lui transmet. On vient le visiter à l'île d'Elbe, il lit les journaux, il a des espions en Italie. Et tous ces gens lui disent, au fond, un retour est possible, les Bourbons sont rejetés, donc vous pourriez être à nouveau le sauveur de la nation. Je dirais qu'il y a un faisceau de choses. Napoléon ne demande qu'à être convaincu. Et évidemment, dans les informations qu'il reçoit, il ne retient que ce qui l'intéresse.
Une fois débarqué, Napoléon multiplie les appels à l'armée pour qu'elle se rallie à lui.
Soldats, dans mon exil, j'ai entendu votre voix. Je suis arrivé à travers tous les obstacles et tous les périls. Votre général, appelé au trône par le choix du peuple et élevé sur vos pavois, vous est rendu. Venez le joindre. Soldats, venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. La victoire marchera au pas de charge. L'aigle avec les couleurs nationales volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Alors, vous pourrez vous vanter de ce que vous aurez fait. Vous serez les libérateurs de la patrie.
Le débarquement de Napoléon est d'abord une surprise pour tout le monde, en dépit du fait qu'il a croisé beaucoup de bateaux pendant le voyage, qu'on a dû le voir depuis les forts qui sont sur les petites îles au large de Golfe-Juan. Mais enfin, bon, le débarquement se passe bien. Il y a quand même un incident qui est l'arrestation des premières estafettes qu'il envoie pour essayer de rallier des troupes royales. Mais bon, disons, globalement, le pied-à-terre se passe très correctement. Et puis, Napoléon a imaginé un itinéraire qui n'était pas le grand itinéraire pour remonter vers Paris, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il sait que la Provence lui est hostile. Il l'a constaté l'année passée au moment de son voyage aller vers l'île d'Elbe. Et puis, probablement, a-t-il préparé la marche sur Grenoble, l'entrée dans Grenoble ? On hésite toujours à dire, bon, est-ce que c'était un vaste complot ? Est-ce que beaucoup de gens étaient au courant du retour de Napoléon ? En fait, on n'en sait pas grand-chose. Il y a toutefois à Grenoble un phénomène, un faisceau d'indices, si l'on peut dire, qui montre que au moins jusqu'à Grenoble, la marche avait été préparée avec des complicités à l'intérieur du territoire.
Napoléon sait comment parler aux soldats et surtout, il sait comment galvaniser ses troupes.
Dans un cas comme celui-ci, il faut penser lentement et agir vite. J'ai longtemps pesé et considéré très mûrement ce projet. Il est inutile que je vous parle de la gloire et des avantages que nous recueillerons si nous réussissons. Si nous échouons, pour des militaires habitués depuis l'enfance à contempler la mort sous toutes les formes, le sort qui nous attend n'est pas effrayant. Nous y sommes familiers et nous la méprisons. Car plus de 1000 fois, nous avons vu en face celle qu'un revers peut nous causer.
Lorsque Napoléon programme son retour de l'île d'Elbe, il a deux types de problèmes. Le premier, c'est de savoir comment la France va l'accueillir. Et le deuxième, c'est de savoir comment l'Europe va l'accueillir. Et on peut dire qu'il a un petit peu négligé le facteur européen. Parce que, bien que sachant que le congrès de Vienne était encore réuni, il a tenté cette opération, alors même que les souverains étaient au même endroit, ils étaient à Vienne, qu'ils avaient donc la possibilité de se voir très vite, de décider très vite. Et là, c'est probablement le point faible de la stratégie générale de l'opération.
Le congrès de Vienne, c'est une des grandes réunions de l'histoire diplomatique.
Charles-Éloi Vial, historien. Auteur de Napoléon, la certitude et l'ambition.
Simplement, ce sont les vainqueurs de Napoléon qui vont se réunir à Vienne, donc reçus par l'empereur d'Autriche, et ce qu'ils vont faire, c'est jeter les bases d'un nouvel ordre international pour essayer de digérer les bouleversements diplomatiques et géopolitiques de la Révolution et de l'Empire et construire un nouvel ordre européen sur les ruines de l'Empire napoléonien, un ordre européen donc où il y aurait une Allemagne redessinée, réorganisée, des nouveaux équilibres géopolitiques qui se mettraient en place, où l'Angleterre aurait naturellement à nouveau une place sur le continent, où la Russie s'emparerait à nouveau de cette partie de la Pologne qu'elle convoitait, qui lui ouvre la porte vers l'Allemagne, et où la France serait ramenée dans des limites plus raisonnables, des frontières redessinées, proches de ce qui était encore la France à l'époque de Louis XVI. Donc cela fait une croix, en quelque sorte, sur les conquêtes de la Révolution et de l'Empire, mais on a l'impression qu'avec ce congrès de Vienne, les discussions commencent à partir du mois de septembre-octobre 1814 et se poursuivent ensuite jusqu'en juin 1815. L'idée, c'est de parvenir à une sorte de consensus avec des puissances secondaires, des puissances tertiaires, des puissances de premier ordre et des états tampons qui contiendraient la France également, c'est-à-dire on crée par exemple un royaume des Pays-Bas, on va recréer le royaume de Piémont-Sardaigne, on va donner un accès à la Prusse plus près du Rhin. L'idée c'est de contenir la France, qui est toujours une sorte de chaudron bouillonnant d'idées révolutionnaires, pour qu'en cas de réveil de nouvelles révolutions, immédiatement on puisse prendre les armes et calmer le jeu. Donc il y a cette idée de redessiner une Europe qui serait une Europe durable, une Europe où il n'y aurait plus de guerre, où les gens pourraient commercer en entre États, entre nations, sans plus craindre cette domination sans partage qui avait été celle de l'Empire, et sans plus craindre qu'une nouvelle puissance géopolitique locale n'émerge, que ce soit la Prusse, que ce soit l'Autriche, que ce soit la Russie. On ne veut plus de nouveau César qui terrifierait tout le reste du continent.
Les puissances déclarent, en conséquence, que Napoléon Bonaparte s'est placé hors des relations civiles et sociales, et que, comme ennemi et perturbateur du repos du monde, il s'est livré à la vindicte publique.
Du point de vue de l'armée, en effet...
Emmanuel de Waresquiel, historien, biographe de Fouché et Talleyrand.
Son retour est possible et réussi grâce à ce qu'on pourrait appeler une mutinerie générale au sein de l'armée. C'est-à-dire au fur et à mesure de la diffusion de la nouvelle de son débarquement, les régiments, les uns après les autres, se mutinent. C'est les fameux aigles qui sont conservés dans les havresacs des soldats et que les soldats sortent. Ceux-ci se manifestent une première fois devant Grenoble le 7 mars 1815, lorsque, face au 5e de ligne qui est envoyé par Louis XVIII devant Grenoble pour barrer la route à Napoléon, oserez-vous tirer sur votre empereur ? Et les soldats du 5e de ligne, littéralement, se jettent dans ses bras. Et puis ensuite, c'est le ralliement de la Bédoyère aux portes de Grenoble. C'est l'ouverture des portes de Grenoble. Et puis Lyon, et puis Autun, et puis Fontainebleau, et puis Paris.
Cambronne, je vous confie l'avant-garde de ma plus belle campagne. Vous ne tirerez pas un seul coup de fusil. Songez que je veux reprendre ma couronne sans verser une seule goutte de sang.
Napoléon, là, débarque avec un millier de soldats avec lui, enfin un millier de soldats et sa suite, donc c'est quand même très peu, un peu de canons, etc. Mais enfin bon, si l'unité constituée de plusieurs milliers d'hommes s'oppose à lui, sur le papier, il ne peut pas gagner.
Pierre Branda, historien, auteur de Napoléon à Sainte-Hélène.
Le seul endroit, si je puis dire, un peu vaste, c'est la plaine de la Frée. Il va rencontrer l'armée royale. Et là, il va tenter encore un nouveau pari. Il va se présenter devant les soldats. Il va demander à sa garde de rester en arrière. Il va s'avancer vers eux, ouvrir sa redingote et leur dire « Soldats, voilà, si vous voulez tirer sur votre empereur, je suis là. »
Soldats du 5e, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Me voilà.
Au lieu de recevoir des coups de fusil, ce sont des vivats, l'acclamation. Napoléon, là, tente encore un coup extraordinaire. Il sait que l'armée lui est restée acquise, il sait un certain nombre de choses, mais enfin, il prend beaucoup de risques au cours de cette aventure. Il dira d'ailleurs, jusqu'à Grenoble, j'étais un aventurier, à Grenoble, je suis devenu un prince. Il a pris ce chemin parce que l'année précédente, quand il s'est rendu à l'Huile d'Elbe, en Provence, il avait été très mal accueilli. La Provence est restée royaliste et donc il avait failli être lynché. Enfin, il y a eu des émeutes lors de son passage. On avait brûlé son effigie. On avait aussi lynché un mannequin qui lui ressemblait. Enfin bon, donc il avait ce souvenir. Mais aussi, c'est en fait tactique parce que eh bien, sur cette route où personne ne l'attend, hein, Napoléon choisit presque toujours l'endroit où on ne l'attend pas, finalement on ne pourra pas lui opposer en rang, en ligne, beaucoup d'hommes, et lui finalement, même avec une petite armée, hein, parce que c'est ça, un millier d'hommes à peine, bon, au fur et à mesure des troupes viennent le rejoindre, mais quelques milliers d'hommes, il sait que voilà, il peut l'emporter. Il ne faut pas oublier aussi qu'il a, en 1794, il avait fait la première campagne d'Italie, hein, qui était une campagne dans laquelle il n'était pas encore le général en chef, mais le général de l'artillerie, et c'était une guerre de montagne, donc il connaissait très bien ses reliefs. Là, il connaissait Golfe Juan, hein, c'est lui qui en a fait comme artilleur dessiner les défenses, mais voilà, il a l'avantage du terrain, on va dire, de la vitesse, parce qu'en fait ses ennemis ne le suivent qu'à 24, 48 heures, 72 heures, et il faut savoir quand même que le 4 mars 1815, hein, ça fait quand même 4 jours qu'il est en France, le chef de la police de Louis XVIII écrit à son souverain « Sire, votre royaume n'a jamais été aussi tranquille ». Donc on ne peut pas se tromper mieux.
À Paris, c'est la consternation. La nouvelle du débarquement de Bonaparte est-elle réelle ? Louis XVIII est déterminé, dans un premier temps, à rester sur son trône. Il déclare :
« Messieurs, dans ce moment de crise où l'ennemi public a pénétré une partie de mon royaume et qu'il menace la liberté de tout le reste, je viens au milieu de vous resserrer encore les liens qui, vous unissant à moi, font la force de l'État. » J'ai travaillé au bonheur de mon peuple. J'ai recueilli, je recueille tous les jours, les marques les plus touchantes de son amour.
pourrais-je, à 60 ans, mieux terminer ma carrière qu'en mourant pour sa défense ?
Louis XVIII n'apprend la nouvelle du débarquement de Napoléon que le 5 mars à Paris, et il est d'ailleurs l'un des seuls à savoir, alors que tous pensent qu'on l'arrêtera tel un brigand ou un voleur aux portes d'Antibes, il est l'un des seuls à penser que les jeux sont faits. Car ce qui caractérise Louis XVIII, le roi philosophe, comme disait Madame de Staël, le gros cochon, diront évidemment les soldats de Napoléon, qui se moquaient de lui, c'est tout sauf le dieu Mars. Hein. C'est tout sauf un roi guerrier, c'est un roi de paix, il a la goutte, il est énorme. On porte le roi de sa chaise à son trône. Et l'expression a été d'usage à la cour, porter le roi. Et dans l'armée, on avait l'habitude, en se comptant dans les rangs, de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 18, et cochon 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, ça se passait comme ça. Le roi n'était pas populaire au sein de l'armée, c'est le moins qu'on puisse dire, pour des raisons fiscales et budgétaires, mais aussi tout simplement parce qu'il n'incarne pas le vainqueur des champs de bataille qu'incarnait bien sûr Napoléon. C'est absolument le yin et le yang, hein, ces deux personnages. Mais intelligence politique certainement, prescience des événements certainement, et probablement aussi ce qui les rapproche, c'est une absolue confiance dans leur étoile. Alors du côté de Napoléon, ça s'appelle la fortune, et la fortune est, comme vous le savez, la compagne laïque de la Providence, donc du côté de Louis XVIII, ça s'appelle la Providence.
Le roi lui-même et une partie de son entourage se demandaient ce qu'allait faire Napoléon. Parce que, évidemment, un homme pareil, cultivant une sous-préfecture dans la Méditerranée, c'était très, très, très paradoxal. C'est pourquoi, d'ailleurs, Louis XVIII a demandé à Talleyrand, au congrès de Vienne, d'essayer de régler le sort de Napoléon. C'est-à-dire à la fois régler le sort de Murat, toujours roi de Naples, et puis de régler aussi le sort de Napoléon. Alors, évidemment, tout ça se passe un petit peu en coulisses. On ne peut pas immédiatement produire des notes en disant il faut arrêter Napoléon et l'envoyer ailleurs. Rappelons que Napoléon à l'île d'Elbe est un souverain internationalement reconnu. Donc on ne peut pas aller arrêter, alors qu'on est en train de reconstituer la légalité au Congrès de Vienne, on ne va pas commencer à aller arrêter les souverains. Donc Louis XVIII a très probablement compris que la présence de Napoléon à l'île d'Elbe représentait un danger. Au moment où il apprend le débarquement de Golfe-Juan, on est tout à fait surpris de voir à quel point cet homme réagit avec sang-froid. Alors, ça tient à sa personnalité. Louis XVIII se considère comme étant de la plus belle race de l'univers, hein, les Bourbons. Il considère encore qu'il est un roi, que sa dynastie est supérieure à toutes les dynasties européennes. Voyez comment il a reçu le tsar en l'asseyant sur une chaise alors que lui prend un fauteuil confortable, alors qu'il doit quand même beaucoup à Alexandre Ier. Donc, Louis XVIII, lui, est un petit peu convaincu en son fort intérieur que, au fond, on va bouter Bonaparte en Méditerranée, puis si au passage on pouvait mourir dans un affrontement, ça rendrait service à tout le monde. Et c'est probablement pour ça qu'au départ, il prend les choses avec un grand sang-froid. Il va très vite se rendre compte que toute cette fidélité qu'il avait cru rétablie autour de la monarchie bourbonienne était très fragile. Et sans doute se mord-il les doigts à ce moment-là de toutes les mesures qui était certes nécessaire, mais de toutes les mesures qui ont été prises à l'égard et même contre l'armée à certains moments. Et c'est véritablement ça. Le boomerang, ça n'est pas une adhésion populaire, ça n'est pas des foules qui emmènent Napoléon à Paris, c'est l'armée qui emmène Napoléon à Paris. Et en ce sens, le retour de l'île d'Elbe est un petit peu un coup d'état militaire.
Mais si l'armée a accueilli le retour de Napoléon chaleureusement, on ne peut pas en dire autant de toute la population française.
Ce qu'on peut savoir de l'adhésion de la population, parce qu'il n'y avait évidemment pas les baromètres hebdomadaires des journaux, c'est que sur le chemin de Napoléon lui-même, c'est-à-dire quelques kilomètres autour de la marche de la petite armée qui remonte vers Paris, bon, il y a eu une forme d'enthousiasme, les gens sont venus l'acclamer. En revanche, on ne sait rien pour le reste de la France. D'abord, les nouvelles se sont répandues très lentement. Je vous rappelle que la marche vers Paris, ça dure 20 jours. C'est à peu près le temps qu'il faut pour transmettre les nouvelles à certains endroits du territoire. Et puis, ça change tout le temps. Tous les jours, Napoléon fait 40 kilomètres de plus. Donc, bon, les gens ne sont pas très, très bien informés de ce qui se passe. Et puis, si vous voulez, si on cherchait des indicateurs sur l'adhésion ou la non-adhésion de la population, mais il suffit de regarder les trois élections qui ont eu lieu pendant les 100 jours. Les élections municipales au suffrage universel dans les communes de moins de 5000 habitants sont un succès pour les royalistes. Les maires royalistes sont reconduits. Les élections législatives, la partie bonapartiste de la nouvelle Chambre des députés est à peu près d'une quarantaine sur 600 députés, donc ça fait pas beaucoup. Il y a beaucoup de libéraux, il y a beaucoup d'anciens révolutionnaires, il y a pas mal de royalistes aussi qui sont élus. Et puis surtout, c'est l'échec du plébiscite de 1815, où on est à une participation probablement un peu inférieur à 20%, ce qui est quand même un peu plus de deux fois moins que les plébiscites qui avaient eu lieu sous le consulat. Donc si on devait chercher un indicateur d'adhésion populaire, celui-ci me semble être un indicateur assez intéressant, parce qu'on dispose quand même là de trois résultats électoraux en deux mois, et c'est quand même un signe. Et puis probablement les nouvelles de la décision prise par les alliés d'attaquer la France, qui se retrouvent dans les journaux, qui filtrent de toute façon, on va dire, dans les élites, puis percolent un petit peu sur la population, ne sont pas de bonnes nouvelles. Les Français n'ont pas envie de repartir en guerre.
Enfin, les anciens maréchaux de Napoléon, lassés de la guerre et qui l'avaient poussé à abdiquer l'année précédente, ne voient pas le retour de leur ancien chef d'un bon œil. Le maréchal Soult aura des mots très durs.
Cet homme qui naguère abdiqua aux yeux de l'Europe un pouvoir usurpé dont il avait fait si fatal usage est descendu sur le sol français qu'il ne devait plus revoir. Que veut-il ? La guerre civile ? Que cherche-t-il ? Des traîtres ! Où les trouvera-t-il ? Bonaparte nous méprise assez pour croire que nous pourrons abandonner un souverain légitime et bien aimé pour partager le sort